Bonjour à tous, depuis les studios de Radio Galaxie, c'est l'heure de vous présenter la 45e émission de La Bougeotte, donc présentée par Christian Cayol. 45e émission veut dire pratiquement 4 années d'émission. Bravo Christian. Je rappelle aussi que cette émission passe le premier mardi 9h30, deuxième jeudi 14h30, troisième samedi 17h30, quatrième dimanche 7h et qu'on peut aussi la retrouver sur le site de Radio Galaxie, mais aussi sur ton site Christian. Bonjour à toi.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Merci pour cette intro. Oui, on peut la retrouver sur mon site, Rando VTT Vidéo. Et bon, allez directement sur le site Radio Galaxie, ça sera plus facile pour vous.
4 ans d'émission, c'est pas mal, ça use les mollets, parce que chaque fois dans ces émissions, il y a du VTT, on rappelle, donc ça use les mollets.
Oui, mais ça entretient, bon, maintenant de moins en moins, vous le savez. Là, ce sont des anciennes émissions que l'on reprend, ouais. Donc, et notamment sur celle-ci, si vous aimez le vélo, le VTT en particulier, alors allez voir les images, parce que vous avez de tout, vous avez beaucoup de tourisme, beaucoup d'images des Charentes, ne pas confondre les Charentes maritimes, on est bien sur les Charentes, ouais. Autour d'Angoulême, et des images donc touristiques, et puis de VTT pas mal aussi, sur une épreuve faite qui s'appelle, l'épreuve s'appelle la Transbrac, parce qu'on est dans la région de la forêt de la Braconne, et donc j'ai donné le nom de l'épreuve à l'émission de radio et à ma vidéo. Un mot sur la Charente, pour ne pas confondre Charente maritime, on est bien autour d'Angoulême. Et alors, voilà, ce qui est un peu surprenant, qu'est-ce qu'on va trouver en Charente si je demande, si on pose la question, et vous connaissez quoi des Charentes? À part, vous allez me dire peut-être Angoulême, parce que je viens de le citer il n'y a pas longtemps, et puis aussi Cognac. Mais en y regardant de plus près, il y a une multitude de trésors qui sont uniques et qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse. C'est une région aux mille facettes et d'un aspect verdoyant. C'est une région riche en châteaux médiévaux, traversés par une route célèbre, la route Richard, non pas Virenque, comme tu vas me dire peut-être.
Non, non.
C'est pas la route Richard Virenque, c'est la route Richard Cœur de Lion. Là aussi, un peu surpris de trouver une route qui porte le nom d'un des plus célèbres rois d'Angleterre, surprenant. Ben non, pas vraiment, parce que un petit rappel d'histoire, Richard Cœur de Lion et sa mère, c'était Aliénor d'Aquitaine, duchesse, qui est devenue reine d'Angleterre en épousant Henri II Plantagenet, alors on est en 1152, après l'annulation de son mariage avec Louis VII, roi de France, donc reine de France, puis reine d'Angleterre. Ses possessions sont considérables, hein, ça va des Pyrénées au Poitou, à l'Auvergne, plus toutes les possessions des Plantagenet, son nouveau mari, donc Richard, cœur de lion, et donc l'héritier seigneur et héritier d'une grande partie de la France, du duché d'Aquitaine, le Poitou, l'Anjou, la Normandie, le Maine, la Touraine, et puis c'est aussi vassal de roi de France. Alors il passe son enfance et sa jeunesse en France, en s'exprimant pratiquement qu'en français, ne parlant jamais l'anglais. Alors il a fait construire de nombreux châteaux et il défend ses territoires contre Philippe Auguste, qui tente de les reprendre pour la France. Voilà donc l'explication de la présence de tous ces châteaux et de cette fameuse route qui passe par Rochechouart, Rochebrune, Château Montbrun, de l'Abri, tout ça, on en reparlera ou on le verra sur ma vidéo, et aussi Chalus, là où est mort Richard Cœur de Lion. Voilà, donc toutes ces images sur ma vidéo. Au centre de cette région, non loin d'Angoulême, la forêt de la Braconne, qui a donné son nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la randonnée en VTT, la Transbrac. Et la forêt de la Braconne, ce nom vient de braconnier, mais braconnier dans le sens personnel qui s'occupe de la vénerie, chargé d'élever et de dresser les chiens, essentiellement des braques. Ce n'est que bien plus tard qu'on a employé le mot de braconnier pour ceux qui chassaient illégalement. Donc une vaste forêt domaniale qui s'étend sur un plateau calcaire du Jurassique, et dont la randonnée fera plusieurs incursions. Alors, dans cette forêt, on voit sur ma vidéo à un moment une petite cabane faite de bouts de bois et de copeaux. C'est donc les cabanes des feuillardiers. Alors, les feuillardiers, on risque plus d'en croiser dans la forêt, mais du 19e jusqu'en 1930, ils vivaient au corps de la forêt, d'octobre à juin, en s'abritant dans ces cabanes. C'était des huttes qui étaient aussi à la fois leur atelier, salle à manger et dortoir. Ils tiraient du bois, des feuillards, des sortes de tiges souples, qui servait au cerclage des barriques. Et ils fabriquaient aussi des paniers à crustacés et aussi beaucoup de piquets. Et ils avaient acquis une grande dextérité dans le maniement de la hache, de la plane, de la serpe, de la scie. Ils utilisaient un banc qui leur servait d'établi. Les chutes, ils les récupéraient pour le chauffage. La vie, elle était dure. Dans la cabane qui était leur seul refuge, qui était souvent ouverte aux deux extrémités, en particulier en hiver. Ils n'avaient pratiquement aucune instruction, mais ils passaient trois quarts de leur vie dans les bois et certains frôlaient un peu la sauvagerie. Mais par contre, ils étaient très observatoires et connaissaient parfaitement la nature. Ils gagnaient peu d'argent et ils faisaient ça en complément d'un autre métier, bien souvent. Le reste de l'année, ils s'occupaient de l'open de terre ou encore se faisaient embaucher pour différents travaux. Et puis, ici comme ailleurs, les châtaignes ont longtemps fourni l'essentiel des repas. Une petite parenthèse. Au milieu de la forêt, la ligne de démarcation. Alors, ce que j'apprécie énormément, tu me disais, ça fait 45 émissions, ou donc je ne sais pas combien, 4 ans.
Pratiquement 4 ans.
Pratiquement 4 ans. Et moi, ce que je trouve formidable de cette émission, c'est que voilà, je viens de vous parler de plusieurs sujets, à ma guise, et puis en voici un autre, la ligne de démarcation. Voilà, pourquoi je vous parle de ça, parce que ça m'intéresse, parce qu'on n'en a jamais parlé, et pourquoi pas.
Et voilà, et c'est ce qui fait la curiosité d'une région, c'est de voir plein de sujets différents, pas toujours les mêmes.
Donc voilà, alors en juin 40, la France est coupée en deux par la ligne de démarcation, et ici elle passe au centre de la forêt de la Braconne, et ça a réduit bien sûr les communications avec la zone libre. C'est aussi l'arrivée massive à ce moment-là, en quelques semaines, de réfugiés mosellans. D'autres arrivent de Belgique, du nord, aussi de la région parisienne, par les routes d'exode pour rejoindre le sud de la France ou la zone non occupée. Les Allemands contrôlent les points de passage où les laissez-passer sont nécessaires et les Charentais sont devenus passeurs de circonstances au risque de leur vie. Alors les franchissements clandestins sont sanctionnés. En zone occupée, ce sont de multiples interdictions et restrictions. Couvre-feu, rationnement alimentaire, réglementation des déplacements, réquisitions diverses, interdictions, censures, des déportations, remises de toutes les armes et aussi des fusils de chasse, notamment donc les habitants avaient régulièrement chez eux. Tout était réglementé et vendu contre des tickets, attribués chaque mois par la préfecture. Il fallait faire la queue devant les commerces et les files qui s'allongeaient. Parfois, il n'y avait plus rien à acheter. Le marché noir se faisait en cachette à des prix prohibitifs. Alors tout ça aussi pour le raconter, parce que bien sûr, nombreux ne l'ont pas connu, moi-même je ne l'ai pas connu, mais on en a eu des idées, on a vu des reportages, mais bon, il faut de temps en temps se remémorer, ne pas l'oublier. Alors pour survivre, il fallait parfois parcourir mal chaussé plusieurs kilomètres à l'aller pour aller chercher, revenir chargé comme des bourriques et éviter aussi bien les patrouilles à la manne que les redoutables gendarmes français qui saisissaient les produits rationnés. À partir de octobre 41, les jeunes de 17 à 21 ans sont recensés. En septembre 42, Vichy instaure la réquisition de main-d'œuvre, le STO, service de travail obligatoire, pour les hommes de 18 à 50 ans, les femmes de 21 à 35 ans. Les réfractaires se cacheront dans les fermes ou partiront dans le maquis. Angoulême ne sera libéré que le 31 août 44. Une terrible période. Voilà, fermons la parenthèse et revenons à notre forêt que nous traversons plusieurs fois en VTT. Un peu de géologie. Sous la forêt, un karst, où on va trouver des dolines fossiles. La plus importante porte le nom de Grande Fosse. Elle fait 200 mètres de diamètre pour une profondeur de 55 mètres. D'autres semi-actives. La cavité la plus importante est la fosse mobile. Elle développe 8 km de galerie. Elle a une légende. Un homme ayant tué son père et voulant dissimuler son cadavre a erré toute une nuit pour trouver cette fosse, qui se dérobait et bougeait sans cesse pour ne pas être complice de ce parricide. Épuisé, l'homme s'est livré le matin à la gendarmerie de la Rochefoucauld. Bon, c'est un réseau actif de rivières souterraines. Plus sérieusement, le 1er novembre 1755, un tremblement de terre à Lisbonne. C'est loin, hein? Mais Lisbonne était l'épicentre d'un séisme qui fera 30 000 victimes. Mais l'onde de choc va dépasser les frontières du Portugal. Et un écrit rapporte qu'à 1 km d'Angoulême, on entendit un bruit souterrain et que peu après la terre s'ouvrit et qu'il en sortit de l'eau chargée de sable de couleur orange. Plusieurs fontaines se troublèrent et que la Charente connut en peu de temps une baisse considérable. Puis, immédiatement suivi d'une énorme montée de son niveau. D'autres témoignages, dignes de foi, ont décrit des phénomènes d'apparition de torrents à fort débit ou au contraire d'assèchement inexpliqué. D'écoulement couleur rouille, puis troublé et blanchâtre. Ce cataclysme ne fit qu'amplifier le mystère des circulations sur le karst de la Rochefoucauld. Quatre sources qui donnent naissance à une rivière. Le Bandia et la Tardoire sont deux rivières qui traversent le plateau. La première a un parcours de 80 km, la seconde 110. Elles disparaissent toutes les deux sur le plateau et se perdent dans plusieurs gouffres. Deux rivières qui disparaissent comme ça. Les eaux de pluie iront grossir ces deux pertes importantes et seront l'origine des sources de la Touvre. Les sources de la Touvre forment la deuxième résurgence de France. Derrière, la fontaine Vaucluse, avec un débit que beaucoup connaissent, j'espère, fontaine Vaucluse qui est la première résurgence en importance de France. Le débit varie entre 3 et 20 mètres cubes en moyenne par seconde, avec une moyenne annuelle de 13 mètres cubes seconde, ce qui est important. La Touvre a un parcours de 10 km. Donc la Touvre, c'est le nom de la résurgence. Elle se jette dans la Charente, et grâce à cet apport d'eau, la Charente devient navigable. Parlons spéléo et même plongée spéléo. La Touvre est donc une triple résurgence, constituée par les arrivées d'eau du Dormant, du Bouillant et du Lussan, et aussi de la Lèche qui est un peu excentrée. Le Dormant est la source la plus ancienne, mais la moins importante. Il s'agit d'une diaclase de 50 mètres de longueur et d'une largeur variable de quelques mètres et d'une profondeur d'une vingtaine de mètres. Le fond est vaseux, encombré de branchages, impénétrable, pas tellement intéressante. La fonte de Lussan est relativement récente, puisqu'elle est apparue lors du tremblement de terre de Lisbonne. Elle forme une vasque en surface d'environ 25 mètres, suivie d'une galerie inclinée de belles dimensions, par laquelle arrive l'eau sous pression. À 142 mètres de profondeur, les plongeurs s'arrêtent sur un collecteur important et du haut débit difficilement pénétrable. Le Bouillant, la vasque du Bouillant est la plus importante. En surface, un ovale de 26 mètres, 26 par 40. Vers moins 45, l'eau jaillit d'un conduit vertical, provoquant un fort courant, bouillonnant. Ensuite, un collecteur de 6 mètres par 8 à forte déclivité mène les plongeurs à la côte moins 148. Une coloration faite en 2010 a mis en évidence la communication entre la fonte de Lussan et le Bouillant. Au bord de ça, vous avez un sentier d'interprétation des sources de la Touvre qui vous invitera à la découverte de ce site majeur. Sur ma vidéo, vous avez aussi quelques images. On ne comprend pas bien que c'est une source, mais vous voyez l'eau arriver dans une vasque. Après les histoires d'eau, histoire de pierre. Des églises monolithes. À Guran, remontez sur 600 mètres le sentier botanique rive gauche de la Lisonne. Au IXe siècle, un ermite creuse une grotte qui s'agrandira pour devenir au XIIe la petite église de Saint-Georges. Entrez par un couloir, passez les colonnes monolithes, arrivez à la nef. Une sorte de transept est creusée, une coupole indique l'emplacement du clocher qui était au-dessus. On voit encore les trous des cordes pour sonner les cloches. Le chevet a disparu pendant la guerre de Cent Ans. Les guerres de religion achèvent le pillage. La voûte au-dessus du chœur est détruite. Elle deviendra tour à tour salpêtrière, puis grange. Cette église modeste a une douzaine de mètres de longueur seulement, mais elle vous donnera une idée de la merveille que vous pourrez découvrir 20 km plus loin et dont nous allons parler maintenant. À Aubeterre-sur-Dronne, une église rupestre donc des plus importantes de France. 31 mètres par 11. Et 17 mètres de hauteur, 6000 mètres cubes. Dans son genre, une des plus grandes donc de France avec Saint-Émilion. Saint-Émilion, pour comparer, c'est 15 000 mètres cubes, donc pas tout à fait trois fois plus grand. À l'origine, c'est une chapelle du 8e. Elle sera agrandie au retour de la croisade. C'est un lieu sacré qui a abrité plusieurs reliques, dont des morceaux de la croix du Christ. On entre dans une vaste salle de hautes colonnes octogonales soutiennent l'immense voûte. D'un côté, la nef avec un autel reliquaire monolithe d'une hauteur de 6 mètres qui semblerait être la copie du Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ. Donc, un hôtel monolithe, un seul bloc, sculpté, creusé. Sur la paroi opposée, une ouverture permet de communiquer avec une nécropole, que l'on voit sur ma vidéo, de 178 tombes en forme de sarcophage, de différentes tailles, laissant imaginer l'âge des défunts. Un escalier creusé dans le roc monte à une galerie supérieure qui se prolonge sur trois côtés. Au sol de laquelle, la galerie supérieure, s'écoule un fil d'eau d'infiltration. Et à l'étage inférieur, une petite chapelle. Ce qui est très surprenant, c'est que les travaux de creusement se sont faits à la main, du haut vers le bas. Le chantier s'est enfoncé dans la roche au fur et à mesure des travaux. Les chapelles monolithes ne sont pas très fréquentes en France, mais les églises sont encore plus rares. Alors, deux dans le même département à 20 km d'écart, c'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment à voir. Alors maintenant, on a vu des histoires d'eau, des histoires de pierre, autre histoire de pierre. Le plateau d'Argentine et les Clusos. Alors les Clusos, ce terme désigne des abris creusés par l'homme qui seront utilisés comme refuge ou souterrain. Ici, à La Roche-Beaucourt, l'accès se faisait par un toboggan, aujourd'hui un escalier, pour atteindre des silos à grains. Et une nécropole, deux sarcophages, creusés au Moyen-Âge, à flanc de la falaise. On est à Argentine. Un peu d'insolite. Le chaos de Saint-Estèphe et le roc branlant. Un énorme rocher, 30 tonnes, au milieu d'un chaos. Il se bouge à la force des bras. Le rituel, bien sûr, vous l'avez compris, consiste à coincer une pièce sous le monolithe pour la plier. Ça porte bonheur.
À vérifier.
Je l'ai pas fait.
Un autre défi consiste à parcourir les 250 mètres du chaos en sautant de pierre en pierre sans poser les mains.
Tu l'as fait ?
Oui, je l'ai fait.
Ah, très bien. C'est pour ça que tu as une bosse au front.
Autre pierre, les gués. De nombreux gués enjambent partout les rivières. Mais ici, plusieurs sont d'époque gallo-romaine. À Villehonneur, passe l'ancienne voie romaine allant de Saintes à Limoges. La Tardoire, rivière, est franchie par cette sorte de passerelle à 50 cm au-dessus du niveau de l'eau. Des dalles calcaires sont posées sur des petites piles en ciment romain et offrent un passage de 50 cm de largeur sur 65 mètres de longueur. Le VTT, la randonnée, passe dessus. Hein. Attention à la baignade, je l'ai fait aussi.
Et pouf hein. Ah bon.
Ah, ça a la été traversée. Ah. Mais ça paraît... Bon, faut regarder droit devant soi, c'est tout quoi. Hein. Mais bon, ouais. C'est pas bien dur.
Ah, originalité, les Mounacs. Avant sac. Alors, elles ont été préparées dans le plus grand secret, une soixantaine de Mounacs qui sont apparus en 2001, qui représentaient les personnages du village. Alors, ce sont des sortes de poupées grandeur nature, faites de chiffons ou de foins habillés de vêtements. C'est aussi la spécialité de Campan. C'est un peu plus notre région. Là, elles sont disposées le long de la route, comme à Campan, bien sûr, et donnent l'illusion d'une présence humaine. C'est une réussite originale qui se répète maintenant chaque année. Les châteaux, on en a parlé au début. Alors, celui de La Rochefoucauld. À être à La Rochefoucauld, il faut aussi aller voir le cloître. Et La Rochefoucauld, c'est une famille de la noblesse qui a donné plusieurs célébrités, en particulier François VI, duc de La Rochefoucauld, écrivain moraliste bien connu pour ses maximes. Alors, je vous renvoie à vos cours de français du lycée. La rentrée vient de se faire, donc...
Ah ouais, ça va.
Les remparts et le château de Villebois-Lavalette. Sur le site d'un château à Motte du Xe siècle, sera construit au XIIe un château en pierre et une enceinte jalonnée de sept tours à voir ou à photographier du bas des remparts. Alors maintenant, une merveille surprenante. Le château de la Mercerie à Magnac-Lavalette. On l'appelle aussi le Versailles-Charentais. Une histoire unique. Pendant l'entre-deux-guerres, les deux frères Rétoré ont fait fortune dans le commerce. Devenus richissimes, ils achètent un petit château en 1924. C'est le commencement d'un rêve un peu fou. Ces personnages hors du commun se lancent dans des agrandissements et embellissements du château dans un style renaissance italienne. Les années sont fastes, mais dispendieuses. Rien n'est trop beau. Peinture, lambris, sculpture, azuléros, des faïences bleues venues du Portugal qui sont uniques en France. Mais pas un ou deux panneaux, mais 32 panneaux de 6 mètres de haut et 2,60 mètres de large. Il faut les payer. En 1970, l'argent manque. Les travaux sont arrêtés. La vente aux enchères ne couvre que les créances. Le château devient un véritable château fantôme, dominant la campagne charentaise. Après leur décès, sans héritier, le château se trouve orphelin. Il faudra attendre 2011, un accord entre le nouveau propriétaire et la commune, pour voir les premiers travaux de sauvetage se réaliser. Depuis peu, le château de la Mercerie se visite d'avril à octobre. Soulagement. Autre château, le château Montbrun, à Dournazac. Il est absolument magnifique, on le voit au début de ma vidéo, avec son reflet à la surface du lac. Vous avez aussi les vestiges de celui de Montguyon, le château des Lusignans à l'hôtel de ville d'Angoulême, et bien d'autres. Et bien sûr des mégalithes, nombreux. En particulier, le dolmen de la pierre levée à Saint-Fort-sur-le-Nez, de belles dimensions qui trônent au milieu du vignoble. Le dolmen de la pierre folle à Montguyon, adossé à une allée couverte. Le soir de Noël à minuit, la grosse pierre de 30 tonnes fait, soi-disant, 3 tours sur elle-même. Je ne l'ai pas vérifié non plus.
Et alors, les infos se vérifient.
Sois le spécialiste.
Je le crois, oui.
Alors, bien d'autres choses encore. Voyez, hein, les Charentes et la région d'Angoulême, on ne croyait pas. Hein, mais c'est unique, hein, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez aussi les manoirs à Moutier-sur-Bohême. Vous avez la tour à Pons, un ancien donjon du château détruit par Richard Cœur de Lion. Et vous avez aussi la belle tour de Piégutte, unique vestige du château, détruit lui aussi par Richard Cœur de Lion. Vous avez cette fameuse pierre là, à Garde-les-Pantaroux, la pierre champignon. Vous avez la belle vallée des Eaux Claires, où on voit cette falaise arrondie, surplombante comme une forme de vague. Et que de curiosité, voilà. Je vous dois une explication, si vous voyez ma vidéo, si vous allez la voir. Au début, j'ai écrit quelques lignes, ce que j'ai baptisé un édito. Donc ma vidéo commence par cet édito. C'est ma façon de remercier le rédacteur en chef d'un grand magazine de VTT qui a beaucoup compté pour moi et pour son départ à la retraite. J'ai écrit ces quelques lignes pour le remercier. Et puis, une belle aquarelle, comme chaque fois, qui conclut ma vidéo qui représente le guet romain de Villonneur, aquarelle de Nadine. Le mois prochain, l'émission va s'appeler « Ocre à la neige ». Ce n'est pas une pâtisserie. Pourtant, c'est beau comme un gâteau. Je vous laisse deviner où est-ce que ça peut bien être. Voilà, ben vous chercherez. Vous avez un mois pour ça. Hein, en attendant,
okay. Bougez.
Mais bougez en France.
Voilà.
Merci et à bientôt.
Merci Christian de nous faire découvrir notre belle France. Merci.
Avec plaisir. Au revoir.